Tout de suite, c'est le nouveau rendez-vous du lundi avec sa bande-annonce pour un avant-goût de ce qui va se passer cette semaine. Une bande-annonce 100% énervée. Namasté.
Swagatam. Swagatam, bienvenue en Inde. Namasté, Raoul. Namasté, namasté.
Quand on m'a proposé le rôle d'Iphigénie, j'ai d'abord eu quelques doutes quant au registre même du rôle. Parce que c'est un rôle qui est quand même assez tendu pour une mezzo.
Non, mais c'est très amusant parce que Chanel, c'est pas moi, c'est comme si je jouais un rôle. J'aime me dédoubler et je n'aime pas uniquement faire une chose. J'aime être partout à la fois.
Regarde les gens, ils font semblant.
Je vais sur Internet. J'ai regardé ce qu'ils disent sur les pesticides. Je comprends pas. Ils ont le droit d'empoisonner les gens comme ça, personne ne dit rien.
Gandalf n'hésite pas à sacrifier tous ceux qui lui sont proches, ceux à qui il manifeste de l'amour.
Pai? Mai? Non t'as qu'à ninguém?
Attends, c'est quoi ça?
Ça! C'est une boîte à rythme.
Mais il me la fout.
Moyennant un petit quelque chose, par exemple, un bisou.
Ouais, et ben de l'avis de Laurent Jalabert, faudra pas traîner, c'est ce qui pourra peut-être causer la perte de Julien Alaphilippe. S'il veut gagner, Julien...
C'est maintenant. Mais
oui, c'est le son de Divine Comedy. Il sera en live et ce sera jeudi prochain dans le NRV avec La Féline en live aussi, et oui. Demain, le Tour de France. Et puis, vous avez reconnu la voix de Karl Lagerfeld. On en parle mercredi. Mercredi aussi, opéra avec la mezzo Gaëlle Arquez. Mais tout de suite, on rejoint nos invités sous influence, Jean-Xavier de Lestrade et Teresa Villaverde. Générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau. Ce soir.
Bonsoir, c'est le NRV et nous sommes lundi 17 juin 2019. Bienvenue à toutes et à tous et doublement bienvenue puisque vous pouvez nous écouter dès 18h en premium, ça veut dire en avant-première, sur franceinter.fr et en podcast, ou alors attendre 22h minuit à l'antenne, comme tout le monde, la version est plus classique. Ce soir, direction le Portugal au cinéma avec vous, Teresa Villaverde, double actualité, un nouveau film, Contre ton cœur, sorti en salle mercredi prochain, et puis une rétrospective de tout votre cinéma au Centre Pompidou. Rien que ça. Teresa Villaverde, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, un activiste, Jean-Xavier de Lestrade, Oscar du meilleur film documentaire en 2002. Il revient avec la fiction, en série pour Arte, avec Jeu d'influence, une série politique hantée par l'affaire Monsanto, déjà prix de la meilleure série au Festival de La Rochelle. Rien que ça. Jean-Xavier de Lestrade, bonsoir.
Bonsoir.
Dans le NRV la suite ce soir, direction l'Inde, rien ne va plus. Gandhi, c'est fini.
Christophe Bourseiller. C'est pas mal, Gandhi, c'est fini. Oui. Gandhi,
c'est fini. Fini.
Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Bref, oui, nationalisme, populisme, xénophobie, c'est vrai que c'est un peu la fin de tout en Inde en ce moment. Enfin, on pourrait le croire, n'est-ce pas? Au secours, les enfants de Gandhi sont-ils devenus fous? Enfin, bref, bon. Alors donc, les invités, il y aura Ingrid Terwatt, qui est journaliste à Courrier International, Patrick de Jacquelot, qui est journaliste également, ancien correspondant en Inde, et deux indiennes, mais qui ne parlent pas un mot de français. Français, c'est normal.
Non, je blague. Non, non.
Elle parle très bien français, au contraire. Vaiju Naravane, éditrice, ancienne correspondante à Paris du Hindu Times, que vous lisez régulièrement, Laurent, et Shumana Sinha, romancière.
Que voilà. Je lis. Et qu'on avait invité ici, on était en effet en tant que romancière dans le NRV.
Et ben voilà. Ben,
vous voyez.
J'étais pas là ce soir-là.
Ben non.
Mais bon.
Vous serez la seule.
Tout à fait, je vais venir.
Alors, tout
là.
À l'heure. Générique.
France Inter. Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard.
Une nouvelle série pour Jean-Xavier de Lestrade, du cinéma en série pour vous, Teresa Villaverde, avec un film en salle après-demain, et puis surtout une rétrospective au Centre Pompidou qui va permettre de mieux connaître votre cinéma en France, un peu connu dans certains milieux. Ça veut dire qu'il y a eu une résistance en France au cinéma que vous pratiquez, Teresa Villaverde?
Je ne sais pas. Je pense que c'est pas moi de dire ça, mais je pense que, enfin, c'est vrai que pour moi, c'est extraordinaire d'avoir cette rétrospective au Centre Pompidou et en même temps la sortie de Contre ton cœur.
Ça, ça tombe bien. Je veux dire que le timing est excellent.
Oui, ça.
Bravo
ça,
au programmateur. Ouais. Vous connaissez Teresa Villaverde, Jean-Xavier de Lestrade?
Je dois avouer que...
On va faire connaissance ce soir. Juste un mot, hein, Thérèse Avila-Verdé. Je lisais, quand je préparais le dossier, que votre cinéma, vous l'aviez créé en opposition avec les normes de l'école portugaise. Quelles étaient les normes de l'école portugaise? Quel était le cinéma contre lequel vous vous êtes construit au Portugal? Il y avait quoi?
Je sais pas. Moi, je n'ai pas fait d'école. Et je ne sais pas si j'ai dit que je faisais contre les normes. Je pense qu'au Portugal, une chose qu'on a là-bas de très bien, c'est que même si on travaille avec des budgets qui ne sont pas gigantesques, on a une liberté totale. On n'a pas la pression, soit des TV, soit de... Et ça, c'est... Je pense que ça, c'est très important pour le... C'est que... Enfin, le cinéma portugais. Et je ne sais pas, je n'ai pas dans la tête d'aller contre quelque
un certain
chose.
Cinéma. Par exemple, le film qui va sortir, combien il coûte? C'est un budget de combien? Bon, si, vous devez savoir, vous êtes cinéaste.
Je suis productrice aussi de votre cinéma.
C'est un budget de combien à peu près?
Qu'on
voit par rapport à la France.
Mais je ne sais pas si c'est très important de dire le budget, mais je peux dire, c'est un peu moins d'un million d'euros. Ouais.
C'est très peu, en fait, pour faire du cinéma, Jean-Xavier de l'Estrade. En France,
oui, enfin, on peut faire...
Bien sûr, on peut faire du cinéma avec encore moins.
Non, mais on peut faire de très très bons films avec moins d'un million d'euros. C'est pas, la donnée n'est pas qu'économique, évidemment, et heureusement. Oui. Après, c'est un très petit budget. En France, ça passerait dans ce qu'on appelle les annexes 3, ou des films où les techniciens sont moins payés que la norme, et on fait déjà un peu de bricolage économique.
Tout à fait. Donc, pour voir un petit peu justement la différence d'économie. Alors, dans cette rétrospective, il y a bien sûr vos films de fiction. Ils vous ont passé aussi une commande sur un documentaire sur le Brésil de Bolsonaro.
Oui, c'est le film que le Centre Pompidou propose à chaque cinéaste qui a une rétrospective au centre et les films s'appellent toujours Où en êtes-vous?
Où en êtes-vous, Thérèse
Avila-Verdé? Et après le nom du cinéaste.
Ouais. Vous en êtes où?
Et moi, j'ai décidé de faire une chose au Brésil. En disant que le jour tel, j'étais exactement où je voulais être. Et alors, j'ai eu la chance de, j'ai parti au Brésil et j'ai tourné dans la favela de Mangueira au carnaval. Et c'était le moment où les gens à la télé votaient pour voir qui allait gagner le carnaval. Et Mangueira a gagné. Et moi, je suis allée là-bas parce que la chanson, enfin le samba de cette année était très très politique et très, enfin même c'était écrit, c'était
contre Bolsonaro.
C'était pas, il parlait pas de Bolsonaro, c'était pour les Noirs, les Indiens, pour les la femme qui vient d'être assassinée, Maria Franco, et enfin tout ça a été écrit. Alors j'ai eu le
besoin d'avoir cette dimension politique. Alors, Jean-Xavier de l'Estrade, la politique, vous connaissez depuis cette nouvelle série sur Arte, une série politico sur au programme Pesticides, Lobby, ça s'appelle Jeu d'influence. Vous choisissez de la fiction pour ce sujet, alors qu'on aurait pu vous attendre au documentaire. Je sais qu'on vous a beaucoup posé la question, je l'ai lu d'ailleurs dans tous les dossiers, parce que quand même, Oscar du meilleur documentaire en 2002, vous choisissez cette fois-ci la fiction pour un tel sujet. Ça s'est imposé d'emblée?
Oui, d'emblée, oui, oui.
Vous n'avez plus du tout envie de revenir au documentaire?
J'ai l'impression d'avoir, vous avez cité Coupable idéal, mais après il y a eu Soupçon.
Ah, il y en a eu plein.
The Staircase, qui est quand même une série de 13 heures sur une histoire aux États-Unis. J'ai tourné pendant plus de 15 ans cette histoire-là. Et quand vous sortez d'une histoire pareille, vous êtes un peu exsangue d'une certaine manière et vous avez envie d'autres défis. Et je pense que la fiction, il y a tellement de choses dans la fiction que j'ai envie d'explorer, que j'ai envie de tenter, de découvrir, que c'est là où j'ai envie de m'exprimer.
Depuis quelque temps. Oui. Juste pour Thérèse Avila-Verdé et quelques auditeurs qui ne connaissent pas ce travail, vous rappelez le sujet de cette série qui vous a coûté 15 ans de votre vie?
Le sujet, c'est un écrivain en Caroline du Nord qui s'appelle Michael Peterson. Et cet écrivain, un soir de décembre 2001, retrouve, selon ses dires, trouve sa femme au bas d'un escalier. Elle est dans une mare de sang. La police arrive, l'arrête et est convaincue que c'est lui le meurtrier. Et alors qu'on ne sait pas si c'est un accident ou si c'est un meurtre. Et le processus judiciaire va durer pendant plus de 15 ans. Et nous, on a suivi ça quasiment du mois de janvier 2002 jusqu'en février 2017.
Jusqu'à avoir des révélations au cours de l'enquête.
Oui, hein, oui, ouais. jusqu'à avoir... Enfin, c'est une série qui... le retentissement qu'elle a eu dans les pays, surtout anglo-saxons...
Une série documentaire.
Une série documentaire, oui. D'un point de vue... Enfin, c'est tellement documenté le processus judiciaire dans lequel il passe, le travail de l'avocat, le travail de l'accusation, le juge qui, jusqu'à la finalement, à la fin, dans le dernier épisode, dit... J'ai fait des erreurs, reviens sur certaines des décisions qu'il avait prises. Enfin bref, c'est quand même... oui, ça a été un travail...
Ça a été un travail énorme et vraiment salué dans les pays anglo-saxons. La difficulté aujourd'hui d'une série politique, c'est de participer au Tous Pourris. Jean-Xavier de Lestrade.
Oui, vous avez raison. C'est le danger. Enfin, c'est de se dire, tiens, on va parler de la politique, mais comment parler de la politique autrement que alimenter ce désamour profond qu'il peut y avoir, enfin, qu'on constate aujourd'hui entre une majorité de nos concitoyens et la classe politique. Et il ne s'agissait, enfin, moi, c'était un des premiers buts. C'était surtout ne pas participer à ça, à cela. C'était de prendre... Parce que ça existe aussi. C'est pas juste une fiction, une vue de l'esprit. Il existe des hommes politiques, et notamment des députés, qui sont là pour au service de leurs électeurs. Enfin, pas que, mais au service du public. Au service de l'intérêt général.
De
la collectivité, bien sûr. Et donc, des gens qui sont... intègres, qui ont envie de se battre jusqu'au bout pour leurs convictions. Et donc, un des personnages principaux de Jeux d'influence, qui est Guillaume Delpierre, joué par
Laurent Stocker. De la Comédie Française.
Oui, voilà, il est, c'est quelqu'un, j'avais envie qu'on ait confiance en lui, qu'on se dise, ah tiens, voilà, quand même un homme politique qui a envie de se défendre vraiment, et puis, qui est pas juste là pour son égo.
Vous n'avez jamais eu envie d'en faire un contre-héros, c'est-à-dire de le faire basculer du côté du mal à un moment donné pour un coup de théâtre?
Peut-être la saison 2.
Ouais, peut-être la saison 2.
Non, si on peut pas trop. Laissons quand même aux gens pendant 6 heures découvrir.
Ça devienne un immense salaud. Et Stocker sait très bien faire les salauds. On vous a demandé à vous deux des sons pour faire plus amplement connaissance. Ça commence bien sûr par du cinéma pour vous, Jean-Xavier de Lestrade.
I go all over. I take people to the Bronx, Brooklyn. I take them to Harlem. I don't care. Don't make no difference to me. It does to some. Some won't even take spooks. Don't make no difference to me.
Drive a 48th and 6th, please.
Man, you are gorgeous.
Qu'est-ce qu'on entend, Jean-Xavier de Lestrade?
On entend la voix de Robert De Niro, un de ses fameux monologues dans Taxi Driver. Et pour moi, c'est peut-être le premier émoi cinématographique que j'ai ressenti. Je me souviens très bien, j'habitais dans le sud-ouest, et là où j'habitais, pour aller au cinéma, il fallait faire 40 kilomètres. Et je voulais absolument voir ce film. Je sais pas pourquoi, c'est l'affiche, je sais pas, j'avais 13 ans à l'époque. Et le film était interdit aux moins de 18 ans.
Ouais.
Et un mercredi après-midi, j'ai fait le mur du lycée dans lequel j'étais interne. J'ai fait du stop. Et j'ai menti sur mon âge, je suis allé voir Taxi Driver dans une salle d'un cinéma de la ville de Tarbes. Et ça a été vraiment le premier choc émotionnel, esthétique, ça contribuait à mon désir vraiment de raconter des histoires avec des images et des sons.
Et plus tard, vous avez compris ce que vous vouliez voir justement à cette époque-là?
C'est un voyage émotionnel. C'est tout d'un coup, c'est vrai que quand vous êtes adolescent et surtout que vous habitez à la campagne, vous rentrez dans une salle de cinéma et avec des inconnus, des gens que vous ne connaissez pas, vous allez partager quelque chose de très intime, de très profond. Et c'est l'expérience du cinéma qui n'existe nulle part ailleurs. Enfin, on peut regarder des tas de films ailleurs aujourd'hui sur des plateformes et tout ça. Il y a des choses très formidables, mais rien ne remplacera à mon sens, cette expérience unique. Et à cette époque, c'était pour moi comme une forme de survie, au fond, en tant qu'adolescent, de pouvoir avoir ces moments-là de voyage émotionnel qui m'emportait dans un autre univers.
Ah, je peux comprendre, ouais. New York, Tarbes, New York, c'est quand même un super voyage.
Très, très grand écart.
Teresa Villaverde, il y a eu comme ça pour vous aussi un film déclencheur ou des images qui ont provoqué, non pas cette vocation, mais en tout cas cet intérêt pour le cinéma?
Bien sûr qu'on nous demande plusieurs fois cette question et je ne sais jamais très bien quelle est la plus honnête, mais je pense que ça vient de vraiment quand j'étais très, très, très petite et que ça vient de Peter Pan. Et c'est parce que j'avais une émotion telle quand je voyais, j'avais 5 ans ou quelque chose comme ça, et il y avait des moments que j'arrivais pas à voir, il fallait toujours sortir de la salle, je disais que j'étais malade, et alors je ne sais pas, c'était les couleurs, c'était tout, et c'est, je sais que, et pour les gens que connaissent mon cinéma, encore peut-être plus étrange de dire ça, mais en même temps non, parce qu'il y a, c'était toujours je sortais de la salle toujours quand il y a le moment où ils expliquent aux enfants qui n'ont pas de famille qu'est-ce que c'est une mère et tout ça, et dans presque tous mes films, il y a des
rapports familiaux, oui, très étranges, fantomatiques, oui, où justement, par exemple, comme dans le dernier film, les personnages apparaissent et disparaissent, oui, un peu comme vous quand vous entriez et sortiez de cette salle.
Je voudrais rajouter une chose. Quand vous m'avez demandé si c'était contre Bolsonaro le carnaval, et j'ai dit non, mais ce que je voulais dire, c'est que là-bas, c'est tellement horrible pour Bolsonaro qu'ils ont décidé de jamais dire son nom. Et alors, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit.
D'accord, parce que c'est pas bien contre lui, c'est contre lui, mais en effaçant son nom.
Oui, et par exemple, dans le film, il y a un moment, là, dans la favela, où il crie contre Bolsonaro, et nous, dans le film, on a dû mettre une barre pour qu'on voit pas les visages des gens. Et ça, c'est les Brésiliens que nous ont dit, il vaut mieux faire ça. Je vous dis ça pour avoir une idée comment les choses sont maintenant au Brésil.
Au Brésil. On vous a demandé un son pour vous, Teresa Villaverde. Ben, vous avez calmé le jeu avec une chanson.
E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência.
C'est le Charles Aznavour du Portugal, c'est le Frank Sinatra du Portugal, c'est qui?
Alors, la raison de choix de cette chanson, c'est cette chanson dit beaucoup à tous les Portugais, parce que c'est ça a à voir avec notre révolution, et c'était les moments où les militaires, les capitaines qui ont fait la révolution, ils avaient chacun été enfin dans un endroit différent pour marcher sur Lisbonne, et il fallait un signe à la radio pour que ils sachent que c'était OK de
pour y aller.
Et c'était
cette chanson,
et c'est pour ça que ça nous donne, et c'était cette chanson parce que l'année même, je pense, c'était la chanson qui a vaincu le festival de la chanson de je sais pas quoi, et parce qu'ils voulaient mettre une autre qui a pressé la chanson de la révolution, mais ils se sont aperçus qu'ils pouvaient pas mettre tout de suite une chanson censurée, parce qu'alors c'était pas possible. Et alors, notre révolution a commencé
à ce moment-là, voilà, par cette chanson. Teresa Villaverde et Jean-Xavier de Lestrade, on se retrouve dans quelques instants, juste après Bertrand Belin, saint de corps et d'esprit dans le Énervé.
Point rouge dans la nuit.
qui danse dans ces collines, on se balade ici, ma main au feu, un ours qui fume, je n'en crois rien, il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui suit un sentier, quelqu'un de transi, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays pour vivre, vivant.
Bertrand Belin dans le NRV. Bertrand Belin a retrouvé en concert au Fnac Live à Paris le 4 juillet prochain avec ce dernier album Persona, un disque France Inter.
Guillaume.
Salut Bertrand.
Rostand m'a dit le plus grand bien de ton travail à l'Assemblée. Déposer cet amendement, c'est une très belle initiative.
Le nouveau rendez-vous.
Mais c'est souvent un peu plus épineux à mettre en place qu'on ne voudrait. Les pesticides, c'est le chiffon rouge. Tout le monde en parle. Il y a tellement d'approximations.
Laurent Goumard.
Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Saskia est un groupe européen leader sur le marché qui emploie des milliers de personnes sur le territoire. Je sais que tu le sais. Et je suis persuadé qu'on va collaborer très étroitement.
Sur France Inter.
Embrouille et lobby pour cette nouvelle mini-série Jean-Xavier de Lestrade. Jeu d'influence, ça passe sur Arte, prix du Festival de La Rochelle, mais vous êtes un habitué. Manon, votre précédente mini-série, avait reçu le FIPADOR de la meilleure interprétation féminine, le prix de la meilleure série, meilleur scénario, meilleure musique originale et prix du public à Louchon, donc vous êtes un auteur heureux. Cette fois, c'est une série politique, on va entrer dans le sujet dans quelques instants. Vous aviez des références dans ce domaine ? Vous avez regardé des trucs ?
Oui, on a toujours des petites références. En général, je regarde jamais pour quand on est dans un processus d'écrire, mais on est chargé avant avec Antoine Lacomblaise, l'auteur avec qui j'écris, co-auteur, oui. On avait un petit peu, on s'était dit, dans l'idéal, ça serait, il y a une série anglaise qui s'appelle State of Play, qui a été, qui date de 2002, quelque chose comme ça, qui est un thriller politique. Dans l'idéal, ce serait State of Play rencontre Borgen.
Ah oui, d'accord.
C'était
les Anglo-Saxons rencontrent du côté
des Danois.
Des Danois.
Oui, oui, il y avait l'intelligence de Borgen, l'intelligence politique de Borgen, qui réussit quand même à nous faire entrer dans la vie politique des Danois et à nous passionner avec ça. Et aussi l'efficacité du suspense construit à l'anglo-saxonne. Donc c'était un peu ça notre idéal.
Jeu d'influence, 6 épisodes sur Arte, une série politico-écolo, jeu de pouvoir à l'Assemblée, au ministre, sur des affaires de pesticides, lobby, activisme, scandale, pression, tout est mis en place dans cette série chorale. Ça commence sur un accident étrange. Un agriculteur, Michel Villeneuve, s'effondre dans son champ. Mais de quel mal souffre-t-il dans l'annonce ?
Vous avez une leucémie, monsieur Villeneuve.
Je vais faire interdire les pesticides les plus toxiques.
Monsieur le ministre, on va vous recevoir.
Saskia est un groupe européen leader sur le marché qui emploie des milliers de personnes sur le territoire.
Oh, qu'est-ce qui se passe ?
C'est des problèmes d'adultes. Rien de grave.
Ce sont des missions de lobbying que je voudrais vous confier.
Monsieur le député Guillaume Delpierre est désigné rapporteur du projet de loi agricole.
Regardez la taille des tumeurs.
C'est pour une plainte.
Contre qui ?
Saskia. Je défends les intérêts du groupe Saskia.
Lâche-moi ! Je suis inquiet pour toi, Didier. J'ai peur que tu fasses une connerie.
Monsieur Forrest entretenait une relation avec une jeune femme.
Je t'ai déjà dit, elle a tout gobé. Vous allez vous servir de la femme de Delpierre pour faire pression sur lui ?
Une série sur le scandale des pesticides, bien sûr hanté par l'affaire Monsanto. Je sais que vous avez un lien avec le monde agricole. Votre père est agriculteur, j'ai bien lu tout. C'est partout, vous répétez exactement ce qu'il en est par rapport à ce père agriculteur qui, au départ, utilisait des pesticides, comme tout le monde. Mmh. Il est bio aujourd'hui ?
Oui.
Et à quel moment il a fait le changement ?
Il a fait le changement, en fait, en 2014. Exactement. 2014, ça faisait un petit moment que ça a commencé à trotter dans sa tête, parce que non pas parce que il était convaincu qu'il fallait faire du bio, parce que quand on vous a lavé le cerveau pendant
des années,
40 ans, 50 ans, c'est quand même très difficile de revenir là-dessus. Mmh. Mais surtout, c'est parce que il a commencé à voir ses collègues agriculteurs disparaître, mourir. De cancer, de leucémie autour de lui, et il pouvait citer au moins 3-4 agriculteurs qui étaient morts et qui étaient sans doute morts, enfin qui étaient morts de cancer assez atypique. Donc on commençait un petit peu à s'interroger, lui-même commençait à s'interroger là-dessus, et puis après il disait aussi j'ai quand même envie au final de pouvoir laisser une terre propre. Ça, c'était, pour lui, c'est un discours assez nouveau, parce que c'est une vraie prise de conscience que si on commence à dire j'ai envie de laisser une terre propre, c'est qu'on a conscience qu'elle n'est pas propre, que là, elle est sale. Ce qui est très paradoxal, parce que pendant très longtemps, je l'ai vu regarder ses champs et il était très fier quand, il y avait le blé ou le maïs, il n'y avait pas une seule herbe folle qui dépassait. Il était très fier. Il disait le champ est propre. Et en fait, non, le chien n'était pas propre.
Il portait un masque pour les pesticides ?
Non, jamais. C'était une période, l'arrivée des pesticides, c'est dans les années 60, qui sont intensifiées dans les années 70, c'était un peu assez miraculeux finalement. C'était vendu en tout cas comme le moyen, avec des engrais, de pouvoir multiplier par 2, par 3, par 4 vos rendements. Et donc de pouvoir vivre décemment de votre travail. Et c'était quand même assez important. Et jamais personne ne mettait en doute ce mode d'agriculture.
Alors la série met en scène la difficulté des politiques à pouvoir se mobiliser face au lobby. On suit un député, Guillaume Delpierre, porté par le sens de la collectivité. Il est rapporteur de la loi sur le pesticide qui est cause de tous les maux. Vous, comment vous vous êtes documenté ? Par exemple, j'ai pu lire que vous aviez rencontré ou tenté de rencontrer des lobbyistes, sauf que ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle des communicants, en fait.
Oui, des communicants.
Des conseillers en communication. Oui, peut-être aussi des ex-journalistes, etc.
Oui, ce sont des gens qui travaillent dans des cabinets de conseil, qui parfois sont avocats. Certains le sont, d'autres le sont pas forcément. Mais non, des lobbyistes en tant que tels, personne n'a écrit sur sa carte de visite.
Je suis un lobbyiste. Qu'est-ce que vous avez
appris
de leur fonctionnement ? Parce que ça n'a pas été facile, j'imagine, de les approcher.
Non,
ils ont bien conscience de l'image qu'on a d'eux.
Oui, mais c'est assez frappant. Enfin, il y a deux choses frappantes. La première, c'est que souvent on a affaire quand même à des gens brillants, intellectuellement, très brillants. est très séduisant et qui manie le langage évidemment avec avec un brio.
Conseiller en communication, avocat. Voilà. Ouais.
Donc ce sont des gens qui peuvent vous retourner la tête en 15 minutes et vous prouver en fait que leur activité est absolument essentielle pour le bon fonctionnement de la démocratie. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au fond, leurs méthodes, ce sont les mêmes méthodes depuis des siècles et des siècles. C'est s'informer, c'est recueillir de l'information, du renseignement sur des gens qui, à un moment donné, vont être en position de prendre des décisions qui vont peser sur les produits qu'ils représentent.
Donc, de pouvoir faire pression sur leur vie familiale, sur leur compte en banque, sur de voir comment ils fonctionnent. Ouais.
C'est leur travail. C'est ça. C'est recueillir l'information, cumuler des dossiers et à un moment donné les sortir quand telle ou telle personne va être en position de prendre des décisions. De s'opposer à eux. Oui. Oui.
Nicolas Hulot a vu le film?
Alors j'ai appris il y a 4 jours, oui, qu'il a vu la série visiblement sur un cargo. Il était dans la Baltique et il a vu ça en une nuit. Et il a envoyé un message en disant c'est dingue, tout est vrai là-dedans.
Donc c'est terrifiant. Des réactions du monde politique, Jean-Xavier de Lestrade?
Pour l'instant, aucune réaction.
Qu'est-ce que vous en attendez d'ailleurs? Qu'est-ce que vous attendez d'une telle série?
Elle s'adresse avant tout aux citoyens.
Qui sont informés justement par cette série, plus qu'ils ne peuvent l'être encore par les articles ou quoi que ce soit. Ouais. Oui, parce que là, on voit véritablement le fonctionnement de ces lobbies.
Oui, comment ça fonctionne. Et finalement, c'est surtout ça. Moi, je m'adresse à les politiques. Je n'attends pas tellement de réaction d'eux. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'au fond, si on ne compte que sur la classe politique pour pouvoir faire bouger les choses, la classe politique seule, quand ils sont face à des multinationales qui pèsent des milliards de dollars, ils ne peuvent pas. Il faut qu'il y ait un relais des citoyens, notre relais. Et donc, la série, même si c'est une série de fiction et que tout de même, ça reste aussi du divertissement quelque part. Il faut prendre du plaisir, il faut pas le nier. Mais je pense que ça permet aussi de s'informer et de savoir comment tout ça fonctionne.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette série s'inscrit dans votre parcours. Vous aviez un programme depuis quelques années complètement cohérent. Un coupable idéal, c'était sur l'affaire Brenton Butler en Floride, on en a parlé. La justice des hommes, c'était sur le génocide rwandais. Soupçon sur l'affaire Kathleen Peterson. Parcours meurtrier d'une mère ordinaire sur l'affaire Courgeot. Alors, je voulais juste vous faire entendre un son. C'est l'intervention d'un jeune premier de la politique qui s'exprime sur un sujet que vous connaissez bien, le génocide des Tutsis au Rwanda, puisque vous lui aviez consacré, sur ce sujet, un documentaire, La justice des hommes.
La France n'a toujours pas fait la lumière sur son rôle au Rwanda. À l'époque, il y avait un président de gauche, François Mitterrand, et un premier ministre de droite, Édouard Balladur. On était en pleine cohabitation. Et la France a soutenu, armé, formé, les milices et l'armée qui allaient faire le génocide. On doit laisser place à la vérité historique.
C'est Raphaël Glucksmann, j'imagine que vous avez suivi cette déclaration et ensuite les ténors du Parti Socialiste qui se sont émus de cette déclaration. Comment vous, Jean-Xavier de Lestrade, vous avez entendu cela?
C'est une parole de vérité, clairement. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'en France, le génocide rwandais s'est déroulé en avril 1994. Donc il y a presque 25 ans. Il y a 25 ans aujourd'hui, et on n'arrive jamais en France à pouvoir regarder nos propres erreurs, les erreurs de nos hommes politiques, les regarder et pouvoir, surtout quand il s'agit en l'occurrence à la fois de Mitterrand, mais d'abord de Mitterrand, plus que de Balladur. Mais tout le monde est complice, quand même, dans l'histoire, puisque Juppé, si vous parlez à Juppé de l'histoire du Rwanda, il va vous fusiller du regard, il sera pas très content. Donc toute la classe politique de l'époque était quand même, au final, relativement solidaire de ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est profondément affligeant et désolant, c'est que dès que on a quelqu'un de de brillant là et qui a envie de prendre la parole et de dire les choses et de dire une forme de vérité. Et derrière, vous avez les caciques, les vieux caciques, les vieux gardiens du temple qui lèvent leur bouclier et qui viennent vous taper dessus pour vous dire non, en fait, on n'a pas le droit de toucher à la mémoire de tonton Mitterrand. C'est sacré et c'est toute l'histoire de la gauche.
Jeu d'influence, c'est une autre partie politique, mais elle est en résonance avec ce que vous avez travaillé tout au long de votre parcours, Jean-Xavier de Lestrade. C'est visible sur Arte. Vous restez avec nous, on va parler cinéma aussi, tout de suite avec Teresa Villaverde. Mais je vous propose avant cela d'écouter une figure emblématique de la scène indépendante brésilienne. Et oui, on y retourne, le guitariste et chanteur Saulo Duarte.
Le nouveau rendez-vous.
Ça va vivre dans toute la musique et dans tout le reste.
Laurent Goumard. Sur France Inter.
Une rapide évocation de ce nouveau film « Contre ton cœur » pour vous, Teresa Villaverde. Le film sortira en salle mercredi prochain. On va y revenir. Et puis, il y a aussi et surtout une rétrospective au Centre Pompidou pour un parcours qui commence en 91, donc tout début des années 90. Ça donne depuis une quinzaine de films. Au départ, je sais, pas de formation particulière. À Prague, quand même. Quelques mois à Prague. Qu'est-ce que vous avez fait faire à Prague?
Effectivement, je suis à Prague, mais j'ai été que quelques mois pour apprendre la langue. Et après, j'ai pas...
Ah, rien à voir avec le cinéma, alors?
Non, c'était pour aller à l'école, mais finalement...
Ça s'est arrêté là?
Oui. Parce que c'était beaucoup d'années et tout ça, et j'ai dit que bon, c'était trop.
Vous êtes portugaise, quel est le cinéma que vous vouliez faire quand vous avez commencé? Quelle idée du cinéma vous aviez pour vous lancer là-dedans?
C'est un peu difficile à dire. Moi, mon école, c'était la Cinémathèque. J'étais toujours, tous les jours à la Cinémathèque. Je voyais un peu tout. Et à Lisbonne, on a une très bonne Cinémathèque.
Cinéma français?
Oui, bien cinéma sûr. Français, cinéma, enfin, tout, et les classiques. Et je me souviens que, enfin, j'étais très impressionnée par Murnau, je sais pas comment
vous... Murnau?
Oui, comment prononcer. Enfin, mais beaucoup, beaucoup. Et je pense que le fait que j'ai pas fait une école, ça m'a quand même aidée parce que moi, je connaissais pas les problèmes de tournage et tout ça. Je voyais que l'écran et les images que je voulais voir à la fin. Et je pense que c'est un peu ça qui s'est passé.
Être femme cinéaste au Portugal, quand vous avez commencé, il y a eu des réticences, ça a posé des problèmes?
Comme moi, j'ai commencé très jeune, et je pensais que toutes les réticences, c'était parce que
j'étais jeune.
Alors, j'ai pas compris que c'était peut-être les deux, je ne sais pas. Parce qu'à l'époque, enfin, j'avais, quand j'ai écrit, j'ai eu la, comme notre,
avance recette.
Quand j'avais 22 années, alors c'était, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de cinéastes très jeunes parce qu'il n'y avait pas de subventions pour des courts-métrages, c'était que pour les longs-métrages. Alors, si on voulait faire du cinéma, il fallait tout de suite...
Carrément se lancer dans les longs-métrages.
Et voilà.
Vous avez commencé à quel âge, vous, Xavier de Lestrade ?
J'ai commencé, j'ai fait une école de journalisme, en fait, où j'ai... très vite, j'ai commencé à tourner des reportages de plus en plus longs et orientés vers le documentaire et vers... vers 22, 23 ans. Mais c'est vrai que quand j'y pense avec, j'ai un frère jumeau qui s'appelle Thierry et quand on avait 12, 13 ans, on avait fait un fort lobbying auprès de nos parents pour obtenir une caméra Super 8 et dans notre campagne, on s'amusait à filmer, à inventer des histoires avec notre caméra.
Les premiers films, donc, ça commence dans les années 90 pour vous, Teresa Villaverde. Aujourd'hui, un nouveau film qui s'appelle Colo, au départ, et en français, c'est Contre ton cœur. Colo, ça veut dire quoi?
Parce que Colo, en portugais, ça veut dire tellement de choses que même au Portugal, on me demandait, mais pourquoi Colo?
Ça veut dire quoi, par exemple?
Ça veut dire, enfin, il faut faire un peu des gestes pour expliquer.
Là, je vous vois c'est presque comme, en train de bercer un enfant.
Oui, voilà, c'est tenir un enfant, mais après, on peut dire aussi, ah, toi, tu as trop de colo, toi, tu n'as pas assez de colo. Mais je pense que le titre en français, ça va très bien.
Contre ton cœur, donc portrait d'une famille, une ado et ses parents au programme déclassement social et donc désintégration familiale, ou l'inverse, désintégration familiale, parce qu'il y a aussi déclassement social. Le père est au chômage, il le vit mal, la mère, elle, a deux emplois pour survivre et leur fille cherche ses marques. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est vraiment un cinéma social, naturaliste, pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas cette dimension-là chez vous, Teresa Villaverde. Ce sont des personnages fantomatiques qui apparaissent, disparaissent, comme la mère par exemple, qui ne cesse d'apparaître et de disparaître, éclairée parfois à la bougie quand l'électricité est coupée, mais sans aucun réalisme là encore. Une sorte de portrait de zombie, en quelque sorte. Ça raconte quoi de la situation de votre pays?
À l'époque, il y a quelques années, les années qu'on appelle les années de la crise, au Portugal, c'était très étrange parce que d'un coup, toute la population a tombé dans une dépression collective, mais immédiate. Et c'était un sentiment très étrange. Comment est-ce que c'est possible? Parce qu'il y avait des gens qui avaient encore, enfin, de l'emploi et tout ça, mais je pense qu'il y avait des uns qui avaient perdu déjà l'emploi. Et après, bien sûr que avec cette idée d'acheter des appartements, après, c'est pas qu'on n'a pas d'argent, l'argent, c'est qu'on a des dettes.
Mais
ça,
on peut pas rembourser. Ouais.
Oui, et ça,
tout
c'est
était
très...
à vendre à un moment donné.
Oui,
au Portugal,
oui,
tout.
Oui. Et c'est et bien sûr qu'avoir des dettes, c'est beaucoup plus angoissant que de n'avoir enfin d'argent parce qu'il y a la pression de des banques et tout ça. Ce qui est un peu absurde si on pense que c'est les banques qui ont qui ont fait la crise. Alors, mais c'était très étrange cette dépression collective. Et d'une certaine façon, je pense que c'était peut-être parce que, par exemple, la génération des parents dans le film, c'est une génération qui a déjà né après la révolution et que chaque ils pensaient toujours que la vie allait être toujours mieux.
Ouais.
Et ils n'étaient pas préparés pour un changement comme ça, mais par exemple le film on l'a fait en 2017.
Il y a oui, en fait le film est sorti, je crois, enfin a été fait il y a 2 ans. On est en 2019, donc en 2016-2017.
Oui. Ouais. Et mais par exemple même au Portugal, on a décidé de le faire sortir pas immédiatement et quand le film a été à Berlin et on a pensé bon on va le faire tout de suite, mais après on a décidé non, il faut attendre que le pays change un peu parce qu'elle était déjà en train de changer pour qu'on puisse le voir déjà avec une distance et pouvoir discuter tout ça parce que en même temps que le pays a tombé dans une dépression et subite comme ça c'est après, c'était l'euphorie,
ben oui,
immédiate parce... aussi. Et ça, c'est très étrange. Et même si, bien sûr, par exemple, les gens qui ont perdu les appartements, et maintenant, ils l'ont pas non plus, et on parle pas de ça. Et par exemple, c'est très intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup, par exemple, de divorces, des suicides. Et si on pense, maintenant, je pense que c'était, je ne sais pas, même si c'est très politiquement correct, mais je pense que c'était des réactions très exagérées parce que, enfin, il fallait comprendre la situation et voir comment est-ce que, enfin, est-ce qu'on va continuer à vivre. Et une chose que je pense que c'est très important et qu'on parle pas assez, soit au Portugal, soit n'importe où, c'est que le travail qu'on a, comme enfin notre emploi, c'est pas en général notre choix. Alors c'est on travaille dans des choses qu'on n'aime pas vraiment, mais en même temps quand on perd ça, on a l'impression qu'on a tout perdu et c'est très étrange et je pense qu'il faut beaucoup aussi réfléchir à ça et je pense que enfin quand le film est sorti au Portugal, on a fait beaucoup de discussions avec des débats et on parlait aussi de ça et de la possibilité d'être heureux et pas simplement de gagner un peu d'argent pour faire sa vie et après pour avoir un mois de vacances par an et c'est pas assez.
Vous de quel milieu êtes-vous issu? Isabelle Verdé.
Mon père était journaliste, ma mère travaillait au Parti communiste, alors je viens d'une famille.
Il y a tout ça, en fait, dans ce cinéma. Le film est important parce qu'il dresse donc le portrait d'une famille, donc le père et la mère, qui vivent donc cette crise et cette dépression. Mais il y a aussi une adolescente. Et l'adolescente vit quelque chose d'autre par rapport à la situation du Portugal. Ça vous permet de raconter quoi, de faire le portrait d'une adolescente?
Oui, je pense que les adolescents de maintenant sont très différentes. Et par exemple, je pense que nous, on pensait aussi, bon, on va étudier, après on va avoir un travail. Et eux, ils savent déjà que c'est pas comme ça. Et c'est très étrange parce que depuis longtemps, peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale, que c'est la première fois qu'on voit pas, enfin, l'espoir, enfin, et je pense que le fait qu'ils savent déjà que ça va pas être facile. En même temps, ça les ouvre les horizons et les possibilités de, je ne sais pas, de, j'allais dire de rêver, mais c'est pas du tout ça. C'est, je ne sais pas.
D'être en fait un peu plus léger.
Au léger, au livre, dans le sens qu'ils ne sont pas livres, alors qu'en même temps, ça donne. C'est un peu paradoxal, mais je pense que c'est un peu vrai. Dans le film, cette fille, elle représente un peu l'énergie encore, elle a un peu de révolte, ce que les parents n'avaient pas.
Et c'est un personnage, on pourra le regarder comme étant presque la métaphore de tout ce qui anime votre cinéma. Teresa Villaverde, la rétrospective au Centre Pompidou jusqu'au 30 juin, c'est à Paris, et Contre ton cœur, sorti partout en salle en France à partir de mercredi prochain. Merci à vous deux, merci Jean-Yves de l'Estrade, merci Teresa Villaverde.
Merci.
To be sensible, you know what I mean? And so it's time to get away. It's time to get away from you. I'm dying to get away. I'm dying to get away.
to Get Away, oui, le temps passe. C'était James Murphy et LCD Sound System en 2007. Le temps du énervé, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes après le journal avec ça.
Notre Premier ministre est un populiste autoritaire et il est en train de faire de l'Inde une démocratie ethnique qui favorise surtout la majorité hindoue.
Populisme, nationalisme, islamophobie, l'Inde, pays de tous les dangers. Le rendez-vous est pris. Ben alors, à tout de suite.